France Inter.
Aujourd'hui dans l'affaire sensible, la mort au bout du scalpel ou l'affaire Macchiarini, l'histoire d'un scandale de la médecine, un Tchernobyl de l'éthique, comme l'a qualifié un journal suédois. L'histoire était pourtant belle, si belle, que toute la communauté scientifique et tous les médias, ou presque, ont voulu y croire. Au tournant des années 2010, l'intérêt pour la médecine dite régénérative, qui promet de réparer nos organes défaillants, explose. La spécialité a son pape. Il s'appelle Paolo Macchiarini. Séduisant et charismatique, ce chirurgien italien est aussi ambitieux qu'entreprenant. C'est lui qui a réalisé la première greffe de trachée avec cellules souches, une technique qui promet d'éviter les écueils de la greffe traditionnelle, notamment les rejets. Au fait de sa gloire, le prestigieux Institut Karolinska à Stockholm lui déroule le tapis rouge. Et là, Macchiarini entend développer un nouveau type de greffe, non plus avec des trachées humaines, mais avec des trachées en fibres de plastique fabriquées en laboratoire, un artefact. Mais ce qui devait ouvrir une nouvelle ère de la médecine ne sera qu'une série d'expérimentations hasardeuses et mortelles. Notre invité aujourd'hui, Philippe Amiel, sociologue de la santé, juriste, spécialiste de l'éthique de la recherche sur l'être humain, président du collège de déontologie de l'INSERM, et auteur du livre « Des cobayes et des hommes, expérimentation sur l'être humain et justice », livre paru aux belles lettres en 2011. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Héloïse Rambert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Leprince et Stéphane Coom.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Médecine régénérative. Devant son ordinateur, Benita Alexander, journaliste américaine chevronnée de 46 ans, tape ces mots dans sa barre de recherche. Nous sommes en 2013. La chaîne pour laquelle elle travaille, NBC, veut faire un documentaire sur le sujet. Benita n'y connaît rien. Alors elle se renseigne. La médecine régénérative, apprend-elle, vise à remplacer ou régénérer des cellules, des tissus ou des organes endommagés. Prometteur. Au fil de ses recherches, elle tombe toujours sur le même nom, Paolo Macchiarini. À la fois chirurgien et chercheur, il semble incontournable dans le domaine. Alors elle finit par convaincre sa hiérarchie, c'est lui qu'il faut pour le film. Lorsqu'elle le rencontre dans un bar d'hôtel à Boston, la journaliste est immédiatement séduite. Pour le documentaire « Un chirurgien qui vous veut du bien », produit par Netflix en 2022, elle décrit quel genre d'homme il était.
Paolo est un homme fascinant. Il voyageait dans le monde entier pour son travail. Il est italien, c'est un homme élégant, séduisant et très beau. Il parle 5 ou 6 langues. Il travaillait pour l'Institut qui attribue le prix Nobel de médecine. Il avait une maison sublime à Barcelone. Et il passait sa vie entre l'Espagne et le reste du monde. Paolo avait une vie incroyable.
Le coup de foudre est clair et réciproque. Et les deux entament une relation au moment où Benita Alexander commence le tournage de son film, dans lequel Paolo Macchiarini va occuper une place centrale. Benita a d'abord un cas de conscience. Son éthique journalistique lui dicterait de rester à distance de son sujet. Mais le cœur a ses raisons, que voulez-vous ? Oh, elle n'est pas la seule à succomber au charme de Paolo Macchiarini. Le monde entier succombe. Il est admiré par ses pairs et reçoit l'attention des médias pour ses chirurgies innovantes depuis déjà plusieurs années. Sa success story commence vraiment en 2008. Macchiarini a 50 ans et déjà une carrière médicale et académique prestigieuse derrière lui. Il a notamment dirigé des services de chirurgie thoracique dans plusieurs hôpitaux européens. Cette année-là, il devient le premier chirurgien à réaliser une greffe d'un nouveau genre avec une équipe internationale européenne. À cause d'une tuberculeuse soignée trop tardivement, sa patiente a la trachée très abîmée. Macchiarini en prélève alors une autre sur le corps d'un donneur décédé. Mais avant de l'implanter, il la débarrasse de toutes ses cellules et l'imbibe des cellules souches de la future receveuse. Alors, les cellules souches, ce sont ces cellules présentes dans la moelle osseuse, capables de se différencier en n'importe quel type de cellule de l'organisme. À la fin des années 2000, elles ont le vent en poupe. On leur prête un potentiel thérapeutique quasi surnaturel. Le chirurgien, lui, espère que ces cellules souches généreront de nouveaux tissus vivants et une trachée parfaitement fonctionnelle, acceptée par le corps. Bien. Après l'intervention, tout semble aller pour le mieux. Paolo Macchiarini dit toute sa satisfaction.
Étant donné que nous avons transplanté un organe très complexe, d'un point de vue immunologique, pour la première fois avec ce principe d'ingénierie tissulaire, je suis persuadé que cela va ouvrir la voie à d'autres types de transplantations. Elle n'a pas besoin de prendre de médicaments immunosuppresseurs contre le rejet. Les complications potentielles du traitement sont évitées.
Les travaux de Paolo Macchiarini et de son équipe font l'objet d'une publication dans la très respectée revue scientifique de Lancet, qui les classe même parmi les 10 plus importantes de l'année. Le médecin se taille alors une réputation internationale de chirurgien doué et audacieux. De quoi attiser les convoitises d'un monde de la recherche hyper concurrentiel qui veut attirer les talents et, avec eux, innovation et subvention. Le chirurgien est ainsi courtisé par l'Institut Karolinska à Stockholm. Et pour un scientifique, c'est un Graal. Accolé à cet hôpital, le meilleur de Suède, l'Institut compte parmi les plus prestigieux au monde et l'un des mieux dotés. 6000 chercheurs et scientifiques, la moitié des fonds publics est destinée à la recherche médicale. La crème de la crème. Karolinska héberge également le comité Nobel, responsable de l'attribution du prix de médecine et de physiologie. L'Institut et Macchiarini, ce sont deux ambitions qui se rencontrent. Le premier veut peser dans la course à la médecine régénérative. Le second, lui, s'imagine déjà décrocher le prix Nobel. Marché conclu. La doyenne accélère un peu la procédure de recrutement sans prendre le temps d'effectuer une vérification approfondie de ses antécédents professionnels. Parallèlement, le chirurgien commence à collaborer avec l'université de Krasnodar, en Russie. La Suède accepte de partager sa recrue. Il est logique de laisser une certaine flexibilité à une telle pointure. À l'automne 2010, Macchiarini commence au Karolinska avec une double casquette. Comme professeur invité pour mener des recherches et comme chirurgien à temps partiel. Beaucoup sont d'emblée fascinés. Comme Oscar Simonson, l'un de ses collègues chirurgiens, qui témoigne dans le documentaire « Un chirurgien qui vous veut du bien ».
Quand j'ai rencontré Paolo la première fois, je l'ai trouvé charismatique. Il avait une sorte d'aura un peu mystique. Je me suis demandé qui était cet homme. C'était à une réunion. On était assis autour d'une table. Il était debout dans un coin, mais c'était lui qui captait l'attention. C'était assez impressionnant, parce que ce n'est pas simple de captiver toute une assemblée.
Macchiarini est considéré comme un demi-dieu. Et lui ne se voit pas autrement d'ailleurs. « Il n'y a personne entre Dieu et moi », lâche-t-il un jour à l'un de ses collègues. Tout à fait sérieusement en plus. À Stockholm, en tout cas, il réinvente sa méthode. Les greffes à partir de donneurs ne sont pas à l'avenir. Les greffons sont trop rares. C'est d'ailleurs le gros problème pour tous les organes. Non, pour pallier ce manque, il va implanter des trachées, non pas de personnes décédées, mais des trachées artificielles fabriquées en laboratoire à partir de fibres plastiques. Pour le reste, le principe ne change pas. L'idée est de placer la prothèse dans un bioréacteur, un récipient de la taille d'une boîte à chaussures, dans lequel la trachée est arrosée avec les cellules souches du patient en solution. L'implantation d'un tel organe bio-artificiel serait alors complètement inédite. Il l'admet lui-même, l'idée est un peu folle, mais ses équipes le suivent. Si ça marche, le Karolinska s'imagine monter une clinique spécialisée autour du nom de Paolo Macchiarini. Le chirurgien est tellement déterminé à créer l'événement qu'il a déjà fixé une date pour sa grande première. Reste à trouver un bon client. Il va lui être amené sur un plateau par l'un de ses confrères et proche ami, un certain André Mariam Beyen, 36 ans, qui vit à Reykjavik, où il poursuit ses études d'ingénieur. 2 ans auparavant, ses médecins ont découvert une tumeur dans sa gorge. Malgré les opérations et la radiothérapie, elle a recommencé à croître et André Mariam a du mal à respirer. Son chirurgien l'adresse alors à Paolo Macchiarini, dont il connaît les ambitions. Lorsque André Mariam se rend à Stockholm, pour ce qu'il pense alors être une simple consultation, Macchiarini a déjà décidé de l'opérer. Mais Beyen hésite, réticent à l'idée de servir de cobaye pour une chirurgie inédite. Alors le chirurgien insiste. « Vous voulez voir vos enfants grandir ? C'est une chance pour vous. » André Mariam se laisse convaincre.
André Mariam Telesanbet Bayen montre sa cicatrice après la chirurgie qui lui a sauvé la vie. Ce père de deux enfants est le premier au monde à recevoir un organe fabriqué par la main de l'homme.
Il me l'a dit directement. On n'a jamais essayé ça chez les êtres humains. On l'a testé sur des porcs. Il était très confiant. Enfin, assez pour me faire aller de l'avant. Pour que j'y croie. Alors j'ai accepté. Mais j'avais très peur, pour parler franchement.
Comme espéré, la première greffe de trachée biosynthétique place le chirurgien et son institution d'accueil au centre de l'attention mondiale. Oui, à ce moment-là, Macchiarini est au sommet de sa gloire. Mais une fois l'opération passée, son intérêt pour son patient s'évapore. Aucun suivi ne lui est proposé pour son retour en Islande. Le chirurgien demande en revanche à ses collègues islandais de pratiquer sur lui toutes sortes d'examens. Parce qu'il veut de nouveau faire publier ses travaux dans la revue de Lancet, capable de lui assurer une renommée mondiale. Mais les éditeurs exigent des informations précises sur l'état du patient et les suites post-opératoires. Les données qui lui sont transmises sont jugées convaincantes par le journal et l'article est publié quelques mois après. Pierre Delaire est professeur en chirurgie cervico-faciale à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il suit de près les travaux sur les greffes de trachée. Lorsqu'il prend connaissance du cas André Mariam Beyen, les bras lui en tombent. Il raconte dans le documentaire suédois l'expérimentation.
You don't have to be a doctor.
Pas besoin d'être médecin pour savoir qu'une trachée synthétique ne va pas se transformer en trachée vivante en mettant de la moelle osseuse dessus. Pour moi, c'était incroyable. Aucune preuve théorique, pas de données expérimentales pour appuyer la thèse de la régénération. Je savais à l'avance que ça allait être un désastre. Vous implantez ça à un patient, vous savez qu'il va mourir. C'était une telle erreur. J'ai immédiatement écrit au président du Karolinska. Regardez, mais qu'est-ce qui se passe dans votre institution ? C'était une erreur monumentale.
Cette première alerte, pourtant claire, est complètement ignorée par le Karolinska et les opérations se poursuivent. À tel point que Paolo Macchiarini est directement contacté par la famille de son prochain cobaye, qui a eu vent de ses exploits dans les médias américains. Ce patient vient de Baltimore, aux États-Unis. Il s'appelle Christopher Lyles. Il vient de recevoir un diagnostic de cancer de la trachée. Il a 30 ans et l'avenir s'annonce sombre. Ses médecins ne lui donnent pas plus de 6 mois à vivre. Alors c'est sa sœur, désespérée, qui envoie un message au chirurgien. Et incroyable, il répond. « Oui, je pense que je peux aider votre frère. » Autant dire que ces mots sont accueillis comme ceux du Messie. Macchiarini et Chris commencent alors à échanger par Skype. Et entre les deux, la confiance s'installe. Quelques semaines après, le jeune homme est dans l'avion pour Stockholm. À la sortie du bloc, comme toujours, le chirurgien italien est très content de lui. Pourtant, et très vite, les choses tournent mal. Les voies respiratoires du patient s'infectent et s'obstruent. Il meurt en mars 2012, après 5 mois de souffrance. Peu avant, une femme de 20 ans, greffée par un collaborateur de Macchiarini, à Londres, selon le même procédé, subit le même sort. Deux patients sur trois sont morts. Mais n'allez pas questionner ces résultats. Cela agace grandement le chirurgien qui répond « Vous croyez que les pionniers de la greffe au début du XXe siècle ont tout de suite réussi ?» Les médias sont peu ou prou de cet avis. Oui, ces morts sont bien tristes, mais tout cela ne se construit pas en un jour. Dans le documentaire « L'expérimentation », il explique pourquoi ce n'est pas le moment de renoncer, même s'il ne sait pas exactement ce qui cloche.
Si vous avez un patient qui meurt à cause d'une nouvelle technologie, vous vous demandez toujours qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que j'ai le droit de continuer? Devrais-je continuer? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Je vois qu'on progresse, et il faut qu'on progresse encore avec le temps. Et c'est seulement en faisant qu'on progresse.
Mais jusque-là, les résultats vous donnent de l'espoir.
Oui, bien sûr. Sinon, j'aurais déjà arrêté.
Et si ce n'était pas la méthode qui posait problème, mais le patient? Après tout, les trachées en plastique ont été implantées dans l'urgence pour sauver des vies, et s'ils étaient tout simplement trop malades pour les supporter? Alors, pour obtenir des résultats plus convaincants, Macchiarini veut tester sa méthode sur des personnes en meilleure santé, dans le cadre d'un essai clinique. Pour cela, il a un terrain de jeu tout trouvé, la Russie, pays où il travaille déjà et où la législation sur les essais cliniques est, disons, plus souple. Pour ouvrir son laboratoire à l'université de Kuban, à Krasnodar, Macchiarini a touché plus d'un million d'euros du gouvernement russe. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, un scandale de la médecine, l'affaire Macchiarini.
Kessaya, je vais vous demander de compter de 100 à 0, d'accord?
Affaires Sensibles.
J'accède au cartilage cricoïde. Bistouri. Je commence la résection. La trachée biosynthétique va parfaitement s'insérer dans la zone resséquée.
Fabrice Drouel.
À l'été 2012, Paolo Macchiarini commence des essais cliniques en Russie, à Krasnodar, avec l'appui des autorités médicales locales. La méthode de recrutement des patients est pour le moins inhabituelle. Les candidats à la greffe sont mis en concurrence dans ce qui ressemble à une grande loterie nationale. Le gros lot, une trachée bio-artificielle. Pour avoir l'honneur d'être choisi par le chirurgien star, il faut envoyer une vidéo de présentation. Oui. Iula Tulik, mère célibataire de 34 ans, se plie à l'exercice. Face caméra, la main sur la gorge, elle raconte. Ancienne danseuse des Bolchoï, elle a été victime d'un accident de voiture qui a sectionné sa trachée sur 2 cm. Cette blessure la complexe, l'empêche de vivre et de parler normalement. Je suis une jeune femme normale et sympa, j'ai besoin de la greffe de trachée que le docteur Macchiarini a mise au point, supplie-t-elle. Et c'est elle qui décroche la timbale. Une équipe de télévision allemande va alors la suivre, elle et son chirurgien, dans cette nouvelle aventure médicale pour un documentaire intitulé « Super Cells », autrement dit « Super Cellules ». Les caméras capturent les attentions dont Paolo Macchiarini couvre sa patiente avant la greffe. Elles sont là aussi après pour filmer ses souffrances dans son lit d'hôpital. « Je peux à peine respirer », souffre-t-elle à Macchiarini, le visage déformé par l'angoisse. La prothèse semble s'affaisser, mais le chirurgien la rassure, tout est sous contrôle. Peu après, elle participe à une conférence de presse avec Paolo Macchiarini. Sa voix est faible, elle tousse, mais l'intervention est présentée comme un succès.
This is Julia.
Voici Julia.
Thank you, Julia.
When I met Julia, she was not able to.
Quand j'ai rencontré Julia, elle ne pouvait pas jouer avec son fils. Ça a été un moment très émouvant pour moi. J'ai immédiatement pensé, c'est la bonne patiente. Je ne peux pas croire qu'il y a quelques jours à peine, elle ne pouvait ni respirer, ni parler normalement. Elle a un peu peur de vous. Alors s'il vous plaît, soyez gentil. Elle peut répondre à toutes les questions que vous avez.
Je n'ai peur de personne. J'ai tellement de projets, il y a tellement de choses que je veux faire.
En exhibant Yulia, Macchiarini donne à voir le succès de sa greffe révolutionnaire au bailleur de fonds russe. Il peut donc enchaîner, ici ou ailleurs. En Suède, il opère une Turque de 25 ans qui peut pourtant tout à fait vivre sans cette greffe. Et les complications graves se multiplient. En tout, cette patiente passera plus de 4 ans en soins intensifs, subira 191 interventions supplémentaires pour traiter des AVC qui l'ont laissée partiellement aveugle et incapable de marcher. En 2013, une enfant d'un an greffée aux États-Unis décède. Andé Mariam Beyen, le tout premier cobaye, est admis au Karolinska dans un état gravissime et meurt quelques mois plus tard. Le CV de Paolo Macchiarini ressemble de plus en plus à la galerie des horreurs. Mais le chirurgien s'en lave les mains. Assurer le service après-vente ne l'intéresse pas. Non, non, il laisse ça aux autres. Il est toujours entre deux avions, soit pour le travail, soit pour recouler avec sa nouvelle petite amie, la journaliste de NBC, Benita Alexander, qui prépare un film documentaire sur ses prouesses. Pour elle non plus, il n'est pas souvent là. Mais elle est compréhensive. Il lui a expliqué appartenir à un cercle très fermé de médecins au service des grands de ce monde. Difficile de retenir auprès de soi un homme sur lequel compte le pape ou Barack Obama. Mais au Karolinska, ses collaborateurs, confrontés aux souffrances des patients, commencent à douter. Et si ces trachées bio-artificielles étaient une escroquerie? Et puis, Macchiarini parle des résultats chez l'homme, jamais chez les animaux. Pourtant, c'est la base dans la recherche biomédicale. On ne teste un traitement chez l'humain qu'après s'être assuré de sa sécurité et de son efficacité chez l'animal. Les médecins retournent la littérature scientifique à la recherche de données, rien. Et c'est l'effroi, parce qu'ils réalisent que Paolo Macchiarini ignore toutes les règles, fait sauter toutes les digues morales et éthiques, et utilise ses patients comme cobayes humains, tout en leur soutenant droit dans les yeux avoir testé son protocole avec succès sur des porcs. Tiens, à ce propos, que deviennent les patients russes? Karl-Henri Grinmano, un chirurgien qui a opéré avec Macchiarini et l'un de ses premiers soutiens, se décide à l'affronter.
On s'est retrouvé à la bibliothèque de l'Institut. Je ne suis pas quelqu'un de stressé, mais à ce moment-là, j'étais très nerveux. Pour moi, Paolo Macchiarini était un exemple à suivre. Je l'admirais. J'ai rassemblé tout mon courage pour poser à Paolo la question qui me taraudait depuis un moment. Bien sûr, à ce moment-là, je connaissais déjà la réponse. Mais j'avais quand même peur de l'entendre de sa bouche. J'ai demandé « Comment vont les patients que tu as opérés en Russie ?» Il a dit « Quels patients ?» Les patients à qui tu as greffé une trachée artificielle. C'était un échange extrêmement tendu. Paolo a répondu, « Mêle-toi de tes affaires, ça ne te regarde pas. » Et après m'avoir dit ça, il s'est levé d'un coup du canapé et il a quitté la bibliothèque.
C'est clair, il faut arrêter Macchiarini. Démontrer par A plus B que sa technique ne fonctionne pas. Dans le plus grand secret, Green Menno et trois de ses collègues se lancent alors dans une véritable enquête scientifique. Ils épluchent les dossiers des patients, reprennent toute leur histoire médicale et les résultats de leurs examens. Et là, ils peinent à croire la réalité qui se dessine devant leurs yeux. Le cas d'André Mariam Bayen est particulièrement parlant. Les résultats de son autopsie montrent qu'il n'avait dans la gorge qu'un tube à nu, complètement infecté et affaissé. Oui, un vulgaire bout de plastique pourri. Rien à voir avec la belle histoire racontée dans les articles scientifiques. Les cellules souches ne reconstituent pas de tissu vivant, c'est une fable. Pour enjoliver ses résultats, Macchiarini n'a pas hésité à passer sous silence le véritable état de ses patients et à falsifier des données biologiques. Les médecins découvrent également que les patients n'avaient pas besoin d'une intervention dans l'urgence, comme l'a prétendu Macchiarini, trop pressé de faire ses preuves. Patiemment, ils accumulent les preuves de fraude et documentent les dommages corporels infligés. En tout, 400 pages de données accablantes finissent sur le bureau du président de l'Institut Karolinska. Depuis la fin de l'année 2013, l'établissement a mis un coup d'arrêt aux greffes de trachée à Stockholm. Mais son chirurgien star continue de faire des essais en Russie, avec sa bénédiction. En 2014, une équipe française vient le rencontrer, à Krasnodar. Alors que les journalistes l'interrogent sur le succès réel de ses greffes, l'échange tourne au vinaigre.
Nous, on a plus de 50, je pense, 50, 65% de survie. À 5 ans, je pense que c'est quelque chose de très très bien.
Des résultats un peu flous et surtout difficiles à vérifier. Quand on lui demande des précisions, le ton monte brusquement.
Mais donc, vous avez déjà publié vos résultats? Enfin, moi, ça m'a échappé, je ne les ai pas vus, quoi, ces publications.
Ah, il faut être un meilleur journaliste, peut-être, je ne sais pas. Il faut se documenter. Hein. J'ai pas envie d'entrer dans ce... Ok, on arrête tout, alors. Ah, je suis désolé, mais ça, c'est vraiment dingue.
Mais non, mais ça m'intéresse.
Oui, d'accord, mais il ne faut pas entrer dans le conflit, voyons. Vous allez chercher des choses qui ne me plaisent pas. Si vous étiez bien, ouais, vous auriez lu dans la publication combien sont vivants et combien on a fait et tout ça.
Ah bon? Quelle publication? Le chirurgien italien dit avoir pratiqué de vingtaines d'interventions dans le cadre de l'essai, mais impossible de trouver trace de 18 d'entre elles. Dans la communauté scientifique, ce manque de transparence, très inhabituel, commence à interpeller sérieusement. Les quatre médecins lanceurs d'alerte pensaient que leur révélation à la direction de Karolinska ferait l'effet d'une bombe. Eh bien, pas du tout. Aucune réaction. Heureusement, les informations atterrissent entre les mains de personnes qui, elles, vont porter plus d'attention à ce qu'elles voient. Un beau matin, le journaliste d'investigation et producteur à la télévision publique suédoise, Bosse Lundqvist, trouve une lettre sur son bureau. L'un des chirurgiens de l'Institut Karolinska y accuse Paolo Macchiarini de fraude scientifique et d'avoir mené à la mort certains de ses patients. Au début, Lundqvist est incrédule. Une chose pareille ne peut pas se produire au Karolinska. C'est sûrement de la diffamation. Mais bon, ça vaut le coup de creuser. C'est d'abord par un autre média que les problèmes arrivent pour Macchiarini. En novembre 2014, le New York Times publie un article au titre explicite. Un chirurgien de premier plan est accusé de mauvaise conduite dans le cadre d'opérations de transplantations expérimentales. Dans l'article, Macchiarini se défend avec vigueur. Pour gérer l'avalanche de sollicitations médiatiques et y répondre habilement, le chirurgien peut compter sur Benita Alexander, sa journaliste et fiancée, comme depuis le début, dans un conflit d'intérêts décomplexé. Le Karolinska est donc contraint de diligenter une enquête interne et après quelques mois, courant 2015, de tenir une conférence de presse. Ordre est donné de ne pas laisser les lanceurs d'alerte y accéder. devant les caméras et malgré tous les éléments en sa possession. Anders Amsten, le recteur, lave Macchiarini de toutes les accusations.
Sur la base de l'ensemble du matériel d'enquête, nous avons maintenant une image beaucoup plus claire de ce qui s'est passé. Sur la base de l'ensemble des documents, l'Institut Karolinska a conclu que, dans aucun des articles examinés, il ne s'était rendu coupable de manquement à l'intégrité scientifique. Il est important de constater que Paolo Macchiarini ne s'est pas rendu coupable de manquement à l'intégrité scientifique. Cela signifie qu'il bénéficie de la confiance de l'Institut Karolinska.
En protégeant Macchiarini, le très honorable Institut se protège évidemment lui-même. Il se charge en revanche de faire de la vie des lanceurs d'alerte un véritable enfer. Ils deviennent persona non grata au Karolinska et perdent toutes leurs subventions de recherche. Pire, la direction porte plainte contre eux et ils se retrouvent convoqués au poste de police accusés d'avoir divulgué des données médicales confidentielles. Macchiarini, de son côté, est d'humeur festive. Il a promis à Benita d'organiser leur mariage prévu pour juillet 2015. C'est une surprise, elle n'a à se soucier de rien. Et c'est le pape qui va les marier. Oui, le pape, qu'il connaît personnellement. Là, la journaliste tique quand même. C'est énorme. Mais après tout, c'est plausible. Son fiancé est introduit dans les plus hautes sphères. Paolo lui donne aussi un avant-goût de la liste des invités. Elton John, les Obama, les Clinton, Nicolas et Carla Sarkozy. Il en passe, c'est des meilleurs. Ah, et puis Poutine aussi. La Russie lui verse des millions pour ses essais cliniques. Il ne peut pas ne pas convier le Kremlin. Et tant pis, si le président russe a déjà annexé la Crimée par la force, c'est pas son problème au chirurgien. Benita va tout quitter à New York, y compris son job chez NBC, pour aller vivre la Dolce Vita avec Macchiarini à Barcelone. Mais un email atomise son rêve de princesse. Un collègue attire son attention sur un point. À la date de son mariage, le pape a prévu un déplacement en Amérique du Sud. Aïe! Benita comprend qu'elle a été arnaquée et utilisée. Le choc passé, elle ne tarde pas à réagir en journaliste.
Vu tous les bobards qu'il m'avait sortis, j'étais certaine qu'il avait aussi raconté des conneries à d'autres personnes. Il mentait sur son travail et ses recherches, c'était sûr. Tout à coup, j'ai compris. Il fallait que je raconte mon histoire et publiquement. Il était de mon devoir de dire au monde entier que le docteur Paolo Macchiarini n'était pas celui qu'il prétendait être. Un de mes amis connaissait un journaliste qui travaillait pour Vanity Fair. Je ne voulais pas attendre. Je voulais que l'histoire sorte le plus vite possible. J'ai rencontré cette personne sur un toit terrasse à Manhattan. J'ai vidé mon sac et j'ai tout raconté.
Et tout cela tourne à la guerre de trachée. L'article de Vanity Fair précipite la chute du chirurgien. En plus des frasques de sa vie privée, il révèle qu'il a gonflé le CV qu'il a fourni au Karolinska. Mais c'est surtout le documentaire d'investigation de Bros Lundqvist, le journaliste qui avait reçu la lettre, vue par toute la Suède, qui crucifie Macchiarini. Son équipe et lui ont mené une enquête de plus d'un an. Dans l'expérimentation, découpée en 3 épisodes d'une heure, ils exposent les graves manquements éthiques de Macchiarini. Le constat est aussi cruel pour leurs confrères. Dans l'ensemble, les médias se sont montrés terriblement complaisants. L'attitude des producteurs du documentaire Super Cells, qui, rappelez-vous, ont suivi l'opération de Ilya Tulik en Russie, est notamment révélée. Au moment de la sortie du documentaire, les auteurs envoient un mail à la jeune femme pour lui proposer de le voir en avant-première. « Au fait, comment allez-vous » lui écrivent-ils sur un ton badin. La réponse est à glacer le sang.
« Je vais vraiment très mal. J'ai passé plus de 6 mois à l'hôpital de Krasnodar. 3 semaines après la première opération, j'ai commencé à pourrir de l'intérieur et je continue. » À pourrir. Je ne pèse plus que 47 kilos. Je peux à peine marcher. J'ai du mal à respirer. Je suis aphone. Je dégage une odeur qui fait fuir les gens de dégoût Les trachées artificielles sont une vraie merde. Navré de le dire.
L'équipe des Supercells décide pourtant de ne rien changer. Le film qui laisse penser que Julia a retrouvé une vie normale et coule des jours heureux auprès de son fils sort, comme prévu. Ce sont les journalistes suédois qui découvrent la vérité. Julia est morte, une de plus. En 2016, le Karolinska licencie celui qui fut un temps le magicien de la greffe pour avoir violé les normes médicales. Et à l'Institut, les têtes tombent. Plusieurs hauts responsables doivent démissionner, mais ne tardent pas à retrouver des postes très confortables ailleurs. Plusieurs enquêtes judiciaires sont menées en Suède. Macchiarini a posé une trachée artificielle à au moins 8 personnes, dont 7 sont mortes. Si la dernière a été sauvée, c'est parce qu'on lui a retiré à temps. Lui ne changera jamais de ligne de défense. Il a agi dans le cadre d'un travail d'équipe et dans le but de bien faire. Peine perdue, il est reconnu coupable de coups et blessures par négligence grave pour 3 opérations effectuées au Karolinska. En 2023, il est condamné à 2 ans et demi de prison, peine qu'il purge actuellement en Espagne, responsable de sa propre histoire qui lui reste en travers de la gorge.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Macchiarini, dont nous allons parler avec notre invité Philippe Amiel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de la santé, juriste, spécialiste de l'éthique de la recherche sur l'être humain et président du collège de déontologie de l'INSERM. Et enfin, auteur d'un livre intitulé « Des cobayes et des hommes, expérimentation sur l'être humain et justice », livre paru aux Belles-Lettres en 2011. Et vous intervenez dans les studios d'ici Montpellier, anciennement France Bleu Héros. Bien. Alors, on a parlé de Tchernobyl de l'éthique, hein, au début du récit, reprenant une jolie formule d'un journal suédois. Est-ce que vous parleriez, vous aussi, de Tchernobyl de l'éthique ou de catastrophe de l'éthique ?
Alors, catastrophe, c'en est une. Tchernobyl, vu le fait qu'il y a tout de même un certain nombre de choses qui ressemblent à cette histoire qui se sont produites dans le monde scientifique depuis longtemps. Voilà, Tchernobyl, c'est peut-être un peu fort. Je veux dire, à force, la planète serait déjà complètement détruite si c'était réellement un Tchernobyl. Hein.
Alors, on peut reformuler, y a-t-il des affaires comparables dans l'histoire de la médecine
Alors,
moderne ?
Alors, il y a de nombreuses affaires qui sont comparables, qui obéissent à des motivations qui sont variées. Là, ce qu'on a de très intéressant dans cette affaire avec Karolinska, c'est cette espèce de rencontre entre un super tricheur, personnalité probablement un peu pathologique, et puis une institution qui est aveuglée, en fait. Hein. Et donc, tout ce qui existe comme contrôle, n'est pas mis en œuvre. Et voilà, et c'est une situation de dérapage à de multiples niveaux qui, il faut rassurer les auditeurs, est tout de même exceptionnelle. Hein. Ce sont des phénomènes qui sont rares. D'une manière générale, la communauté scientifique se conduit bien. La chasse aux mauvaises conduites est acharnée et les sanctions tout de même assez sévères, réputationnelles ou disciplinaires. Et on peut avoir confiance hein, dans la recherche médicale telle qu'elle se fait à l'heure actuelle. Elle est extraordinairement encadrée.
Bien sûr, et heureusement. Alors, est-ce que de manière générale, les centres de recherche, les centres hospitalo-universitaires cherchent encore à recruter des grands noms, des stars de leur domaine pour attirer projets et bien sûr investissements?
Bien sûr, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Chaque institution est intéressée d'avoir les meilleurs chez soi, à la fois pour rendre le meilleur service médical aux patients qui sont pris en charge chez elles ou chez eux, et puis aussi parce qu'il y a une émulation, voire une concurrence dans certains cas, entre établissements. Donc c'est un phénomène qui est naturel. Hein.
Mmh. Voilà, la concurrence est vertueuse en économie, dit-on, est-ce qu'elle est en médecine ?
L'émulation est vertueuse, la concurrence effrénée peut conduire, mais ça c'est une donnée banale évidemment, à des dérapages qui sont dommageables.
Oui, enfin, le plus incroyable, c'est quand même, on se demande comment il est possible que Macchiarini et réussi à lancer des interventions chirurgicales sur l'humain, hein, sans avoir mené un travail de recherche sérieux sur l'animal. Enfin, c'est la base. Il y a bien un cadre légal pour mener des chirurgies expérimentales, des essais cliniques.
Oui, il y a un cadre légal qui est très ancien, qui remonte en réalité bien avant le procès des médecins de Nuremberg, de sinistre mémoire, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc depuis le début du XXe siècle, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire en matière d'expérimentation médicale sur l'être humain. Donc ces choses-là sont extrêmement connues, elles n'ont pas toujours été appliquées avec la plus grande vigueur et la plus grande rigueur. Mais enfin, oui, il y a des règles qui sont extrêmement précises, des contrôles administratifs qui sont faits, des sanctions qui sont prévues en cas de manquement, y compris des sanctions pénales. Hein. Voilà, la situation telle qu'elle est, elle ressort de cette affaire, elle est absolument scandaleuse, et elle est, encore une fois, exceptionnelle, hein, par la somme de manquements qui se cumulent, donc qui sont des manquements à l'intégrité scientifique. Hein. Le chirurgien a menti de multiples niveaux, sur ses diplômes, sur ses publications, et puis des manquements aux règles de l'éthique et de la déontologie médicale en matière de recherche sur l'être humain.
Alors, ce qui est rassurant quand même, c'est que finalement, le poteau rose est découvert par ses collègues, et c'est eux qui agissent.
Alors ça, c'est très important, parce que c'est la principale instance de contrôle de la communauté scientifique, c'est la communauté elle-même. Mmh. Et ça, c'est un contrôle qui est extrêmement puissant. Alors évidemment, il y a des manquements, ils sont produits dans toutes les communautés professionnelles. Évidemment, c'est particulièrement choquant dans une communauté de médecins, hein, qui c'est un métier de vocation, tourné vers le bien des autres, donc on est d'autant plus choqué. Voilà, lorsqu'on regarde en particulier les problèmes de publication, vous savez que ces fameuses procédures de rétractation d'articles qui ont été soit bidonnés, comme on dit, hein, soit dont l'assise scientifique est contestable. Voilà, c'est quelques unités pour 1000. Hein. Ce sont des choses qui sont quand même, qui ne sont pas la normale.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Philippe Amiel, je voudrais revenir sur l'Institut Karolinska, qui était la base de Macchiarini. Après tout, si Karolinska n'avait pas embauché, il n'y aurait peut-être pas eu cette mort, hein, sur les 8 transplantés. Quelle place tient l'Institut Karolinska dans la recherche médicale, alors liée aussi au prix Nobel de médecine? Racontez-moi.
Alors oui, effectivement, c'est la faculté de médecine le Karolinska qui attribue le prix Nobel de médecine. Donc évidemment, c'est une institution qui est extraordinairement visible. Mais c'est surtout un centre de recherche qui figure en biomédecine parmi les premiers mondiaux, enfin dans le top 10, si vous voulez. Donc évidemment qu'un événement de ce genre se produise au Karolinska a été une déflagration tout de même. Hein. C'est le syndrome des avions nifleurs, pour ceux qui se souviennent de cette histoire d'avion qui était censé, avec un appareil, trouver du pétrole en survolant le désert. Et en fait, le gouvernement français s'est fait escroquer d'un milliard sur cette histoire qui était en fait une boîte, un réveil matin qui ne découvrait évidemment absolument rien. On s'en est beaucoup bossé.
Oui, ce sont dans les années Giscard.
Des choses qui n'ont pas de conséquences autres que financières. En matière médicale, évidemment, les conséquences sont infiniment plus graves. Il est intéressant de noter que, parallèlement à l'affaire Macchiarini, on avait en France une équipe qui a fait la première mondiale annoncée en 2018 de greffe de trachée artificielle. Simplement, ils ont annoncé le résultat en 2018, après 10 ans de recherche et de suivi d'une cohorte de 20 patients. Donc on peut faire ce genre de découverte en s'y prenant de manière propre, avec des patients réellement informés et des protocoles de recherche qui sont scientifiquement valides.
Mais ça fonctionne maintenant, les greffes par artefact des trachées?
Alors, les greffes de trachées qui ont été faites, la technique a été mise au point par le professeur Martinos, ce sont des trachées artificielles, mais à partir de tissus vivants, qui sont des greffes d'aorte, en fait, modifiées par différents traitements et avec une technique chirurgicale très particulière.
Mais à votre avis...
Mais ça marche.
Ça marche. Mais à votre avis, au moment où ça ne marche pas, c'est-à-dire le moment Macchiarini... Est-ce que Macchiarini, votre avis, a des doutes, se dit, bon, ça va, si ça marche, c'est formidable, si ça marche pas, tant pis? Ou est-ce qu'il est persuadé que ça va marcher?
Non, je pense qu'il n'est pas persuadé que ça va marcher, que ce n'est pas son problème, en fait. Je pense que, voilà, on a affaire à des personnalités qu'on rencontre quelquefois dans le milieu scientifique, mais ailleurs également, hein, de personnalités pathologiques, encore une fois, qui sont tellement éperdues de reconnaissance, qu'elles sont prêtes à tout. C'est du banditisme, en fait, hein, ni plus ni moins. Là. C'est vraiment un super tricheur. Alors, on en connaît. Ce n'est pas sans conséquence. Hein. Dans le cas de Macchiarini, les dégâts, si on peut dire, sauf pour les personnes qui ont été opérées, ont été stoppés assez rapidement. Mais si on prend le cas, je ne sais pas, par exemple, de Wakefield, Andrew Wakefield, qui est un contemporain, hein, qui a prétendu avoir prouvé le lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme, hein, ça fait des dégâts qui sont considérables, parce que aux États-Unis, où après avoir été interdit d'exercer en Angleterre, il a continué de sévir, on a vu là où il est intervenu des chutes de la vaccination qui ont fait des morts. Hein.
Ouais.
Je ne parle pas de tout ce qui a touché au Covid et à l'hydroxychloroquine. Hein.
Oui, j'y pensais aussi, hein, il y a comme une espèce de parallèle. Mais enfin, lorsque Macchiarini est tombé, le Lancet, hein, la grande revue de médecine qui avait publié ses articles, les a retirés. Ça veut dire qu'il est possible de publier des articles scientifiques sur de mauvaises bases scientifiques, des articles même frauduleux, dans ces publications qui sont pourtant importantes. On leur fait confiance, oui. À ces publications-là.
On leur fait confiance et on a raison, parce qu'elles sont très très équipées en relecteurs, qui sont des scientifiques de très haut niveau, qui sont les pairs, hein, c'est pour ça qu'on parle de revue par les pairs, les peers en anglais, et ça c'est le mécanisme central de la publication scientifique. Bon, mais il y a des trous dans la raquette quelquefois. Hein. Et donc voilà, sur la masse des centaines de milliers d'articles, je crois que c'est 3 millions par an à l'heure actuelle, hein, d'articles scientifiques, alors pas seulement biomédecine, qui paraissent, voilà, il y a des erreurs, il y a des choses qui passent, qui ne devraient pas, pour de multiples raisons qui peuvent être, voilà, simplement de la négligence et parfois aussi des connivences qui peuvent être plus coupables.
Bien.
Et donc ça arrive. Ce qui est important, c'est le phénomène et la procédure de rétractation qui permet en fait de retirer de la littérature scientifique les revues admettent qu'elles se sont trompées, ce qui est très bien.
Oui, ce qui est très bien, c'est une démarche scientifique, c'est l'empirisme, c'est le retour d'expérience, les vérités d'hier sont plus celles d'aujourd'hui. Merci infiniment, Philippe Amiel, merci, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Paolo Macchiarini, La mort au bout du scalpel. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau.